VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 9 mars 2018, en direct de Washington, Idrissa Seroudia
et Anne Albertson.
Pour commencer, les titres.
En Guinée, le président Alpha Condé hué hier à l'occasion de la Journée internationale de la femme.
Au Mali, une attaque de djihadistes présumés stoppe la construction d'un barrage dans le centre du pays.
À l'île Maurice, motion de destitution à l'Assemblée nationale la semaine prochaine contre la présidente Amina Gourib Fakim au centre d'un scandale financier.
Le président américain Donald Trump rencontrera d'ici au mois de mai le leader nord-coréen Kim Jong-un.
Et toujours aux États-Unis, le président Trump a imposé comme promis des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
D'abord, en République centrafricaine, les anti-Balaka et le groupe 3R se concertent mensuellement pour consolider le pacte de non-agression que ces deux factions armées ont signé le 15 décembre dernier, mais des défis subsistent. Pour en savoir davantage, Eric Manirakiza a contacté Patrick Kilchelman, coordonnateur des actions en Afrique centrale et dans les Grands Lacs, de l'organisation Dialogue humanitaire qui a facilité l'accord.
Depuis que l'accord a été signé, toutes les parties que nous avons rencontrées sur le terrain nous disent qu'effectivement, la violence a nettement diminué et que les deux groupes ne s'affrontent plus. Donc ça a calmé la situation et ça permet à la population civile de revenir, qui était déplacée. Donc le retour se fait timidement, mais il est en train d'arriver. Maintenant, plusieurs défis restent à surmonter. En particulier, ce que demandent les deux groupes armés, qui chacun disent qu'ils se sont armés en fait pour protéger leur population, c'est un redéploiement des forces armées centrafricaines. Il s'agit à l'État de réinvestir toute cette zone. Et dès que ce sera fait, les deux groupes armés sont prêts à déposer les armes. Et maintenant, il faut délimiter sur une carte quelle est la zone qui, théoriquement, une zone tampon entre les deux groupes pour ensuite progressivement amener l'État. Donc les choses se font petit à petit.
Patrick Kilchelman, coordonnateur des actions en Afrique centrale et dans les Grands Lacs, auprès de l'organisation Dialogue humanitaire.
Au Mali, une trentaine de djihadistes présumés ont attaqué hier un chantier où sont construits les éléments destinés à l'édification d'un barrage à proximité de Djenné dans le centre du pays. Le pont-barrage doit permettre de relier l'est et l'ouest de la ville qu'on rallie actuellement par un bac en période de crue. D'un coût estimé à 35 milliards de francs CFA, l'ouvrage doit également permettre l'irrigation d'une zone de quelques 50 000 hectares, selon les autorités locales.
Les célébrations de la Journée internationale de la femme ont été mouvementées hier en Guinée. Le président Alpha Condé a été hué par des centaines de femmes. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Des cris de colère ont fusé hier sur l'esplanade du Palais du Peuple, le Parlement guinéen. Devant le chef de l'État, des centaines de femmes ont scandé « Nos enfants à l'école » ou encore « Ne tuez pas nos enfants en les rendant ignorants ». Alpha Condé, opposant historique arrivé au pouvoir en 2010, avait choisi la journée du 8 mars pour mettre en exergue les progrès réalisés par les femmes et plaider contre toute discrimination selon les termes du communiqué de la présidence guinéenne. La Guinée fait face depuis un mois à de nombreuses manifestations au cours desquelles une douzaine de personnes ont été tuées. La grève des enseignants fait craindre une année blanche à de nombreux parents. Alpha Condé a promis de procéder ensuite à un grand remaniement ministériel et de mettre des ministres qui sont à l'écoute de la population et qui s'occupent de leur programme. Ces manifestations sont liées aux élections locales du 4 février, dont les résultats sont contestés par le principal parti de l'opposition, l'UFDG, battu par le parti du président selon les chiffres officiels.
À Maurice, le gouvernement a mis la machinerie en branle pour destituer la présidente de la République, Amina Gourib Fakim. Elle est au centre d'un scandale financier qui défraie la chronique depuis février. Le compte-rendu de Jacques Aristide.
Réunis en Conseil des ministres hier, les membres du gouvernement mauricien sont tombés d'accord que la chef de l'État devra quitter son poste après son refus de démissionner, tel qu'exigé par le Premier ministre Pravind Jugnauth. Une motion pour la destitution d'Amina Gharib Fakim sera débattue à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, après les festivités du 50e anniversaire de l'indépendance, le 12 mars. L'opposition parlementaire a été la première à réclamer le départ de la présidente, accusé d'avoir dépensé plusieurs centaines de milliers de roupies pour des achats personnels sur une carte de crédit offerte par la fondation Planet Earth Institute d'Alvaro Sobrino, homme d'affaires angolais hautement controversé, ce qui est en violation de la loi. Mais la chef de l'État a déclaré aux médias locaux n'avoir commis aucune faute. Elle affirme avoir remboursé les achats en question en intégralité avec son argent personnel. Scientifique de renom, première femme présidente de Maurice, Amina Gharib Fakim, était absente hier lors des célébrations officielles marquant la Journée mondiale de la femme.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a accepté de rencontrer d'ici au mois de mai le leader nord-coréen Kim Jong-un, avec lequel il s'était engagé dans une agressive joute verbale depuis son arrivée au pouvoir en raison des programmes nucléaires et balistiques nord-coréens. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Dans une brève allocution à la Maison-Blanche, Chang Yu-yong, conseiller sud-coréen à la sécurité nationale, a annoncé que M. Trump avait accepté l'invitation pour ce sommet historique. Le leader nord-coréen a fait part de son désir de rencontrer le président Trump le plus vite possible, a-t-il dit. Le président Trump a apprécié le compte-rendu et a dit qu'il rencontrerait Kim Jong-un d'ici fin mai, a-t-il ajouté. M. Chang a par ailleurs précisé que Kim Jong-un s'était engagé à œuvrer à la dénucléarisation de la péninsule coréenne et a promis de s'abstenir de tout nouveau test nucléaire ou de missile pendant d'éventuelles négociations. La Maison-Blanche a confirmé que le président américain a accepté la proposition du dirigeant nord-coréen. Dans un tweet, Donald Trump a salué de grands progrès sur le dossier nord-coréen, insistant sur le fait que l'homme fort de Pyongyang avait parlé de dénucléarisation, pas seulement d'un gel des activités nucléaires. Les sanctions doivent rester en place jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé, a-t-il souligné. Le lieu et la date d'une telle rencontre entre le président des États-Unis et le dirigeant de l'unique dynastie communiste qu'est la Corée du Nord n'ont pas été précisées.
Toujours aux États-Unis, le président Donald Trump a imposé comme promis des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium, malgré les mises en garde de nombre de ses alliés. Abdourahmane Dia.
Après plusieurs jours d'intenses spéculations, le président américain a finalement signé, depuis la Maison-Blanche, les documents mettant en œuvre une décision qualifiée de protectionniste par beaucoup, y compris au sein même du Parti républicain. Son principal conseiller économique, Gary Cohn, a démissionné mardi en raison de son opposition à de telles mesures. Ces taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium entreront en vigueur dans 15 jours. Le Canada, premier partenaire commercial et premier fournisseur d'acier des États-Unis, en sera cependant exempté pour le moment, de même que le Mexique. Le sort qui sera réservé à ces deux pays frontaliers des États-Unis dépendra en particulier de l'issue des négociations en cours sur l'accord de libre-échange nord-américain. Selon un responsable de l'exécutif américain, tous les pays concernés pourront entamer des discussions avec les États-Unis pour négocier eux aussi une éventuelle exemption. Les Européens exportent environ 5 milliards d'euros d'acier et 1 milliard d'euros d'aluminium chaque année vers les États-Unis.
En Syrie, le régime de Bachar al-Assad a bombardé sans relâche hier les dernières zones rebelles de la Ghouta orientale, empêchant la livraison d'aide humanitaire vitale à une population traumatisée par une offensive qui a tué plus de 900 civils depuis le 18 février. Appuyée par son allié russe, l'armée syrienne, qui veut reprendre la totalité de la Ghouta orientale, a reconquis plus de la moitié du dernier bastion insurgé aux portes de Damas, fief du régime.
Le conseiller à la sécurité nationale birman, Tong Thun, a rejeté hier à Genève les accusations de nettoyage ethnique formulées par le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme pour décrire l'exode des musulmans Rohingyas de Birmanie. Rejetant les accusations de nettoyage ethnique, voire de génocide, il a souligné que telle n'est pas la politique de son gouvernement, tout en demandant ce qu'il a appelé des preuves claires. Une campagne de l'armée birmane a poussé à l'exode vers le Bangladesh, voisins, près de 700 000 musulmans Rohingyas depuis août 2017.
L'opposition vénézuélienne a appelé à une marche le 17 mars pour protester contre la fraude. Jeudi, lors du lancement d'un large front regroupant partis politiques et acteurs de la société civile qui exige un scrutin présidentiel libre et transparent. Il s'agira de la première mobilisation organisée par les adversaires du président socialiste Nicolas Maduro depuis la vague de manifestations qui avait fait quelque 125 morts entre avril et juillet 2017. Ce mouvement est né en rejet de l'élection présidentielle anticipée du 20 mai, convoquée par l'Assemblée constituante, dotée de pouvoirs étendus et composée uniquement de partisans du chef de l'État, lequel va chercher à se faire réélire jusqu'en 2025. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho d'Ilidico.
Le Mozambique et la banque russe VTB parviennent à un accord sur la dette du pays vis-à-vis de l'institution bancaire. L'accord conclu constitue un début de solution à ce qui a été baptisé la dette cachée du Mozambique. Entre 2013 et 2014, la VTB a octroyé 335 millions de dollars de prêts à la Mozambique Asset Management ainsi qu'à la Pro Indicus. Ces financements ont été réalisés en secret sans l'avis du Parlement et des partenaires commerciaux du pays. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a promis un dialogue constructif avec les multinationales qui s'inquiètent de la promulgation du nouveau code minier qui pourrait fortement taxer le cobalt. Lors d'une rencontre ayant duré 7 heures, le président Kabila et les 7 principaux opérateurs miniers ont convenu de traiter au cas par cas les problèmes suscités par la révision du code très libéral de 2002. Chaque année, un total de 10 milliards de dollars de cuivre et de cobalt est exporté de la RDC. La Sénégalaise des eaux, la SDE, vient d'annoncer le renforcement de l'alimentation en eau potable de Medina Gounas. Cette initiative fait suite à l'incendie survenu lors de l'édition 2017 du Daaka, ou retraite spirituelle de Medina Gounas, l'un des hauts lieux musulmans au Sénégal. Le sinistre avait été fortement aggravé par les difficultés d'approvisionnement en eau. Les travaux financés par la SDE ont coûté 200 millions de francs CFA.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Huitième de finale aller de l'Europa League hier.
Arsenal vit encore et a assommé le Milan AC à San Siro 0-2. Défaite du Borussia Dortmund à domicile devant Red Bull Salzbourg 1-2. Lyon est allé s'imposer 0-1 à Moscou face au CSKA. Nette victoire de l'Atlético Madrid 3-0 devant l'autre club russe, le Lokomotiv de Moscou. Bonne opération pour Marseille à domicile 3-1 face à l'Athletic Bilbao. 2-2 entre la Lazio de Rome et le Dynamo de Kiev, 2-0 pour le Sporting Lisbonne qui était opposé à Plinsen.
Procédure disciplinaire contre le PSG.
Tout à fait Idrissa, l'UEFA a ouvert hier une procédure disciplinaire à l'encontre du Paris Saint-Germain à la suite des fumigènes utilisés par ses supporters lors de l'élimination en huitième retour de Ligue des Champions mardi contre le Real Madrid, on se rappelle. Utilisation d'engins pyrotechniques, utilisation de pointeurs laser, obstruction des escaliers et surtout organisation insuffisante. Voilà les charges qui pèsent sur le Paris Saint-Germain à la suite du match perdu par le club français face au Real Madrid 1-2. Le verdict est attendu le 22 mars selon l'instance européenne de football. D'après le quotidien L'Équipe, Paris risque jusqu'à un huis clos partiel ou total de son stade sur la scène européenne.
En Italie, Florence a dit adieu à Davide Astori.
Une triste nouvelle Idrissa, Florence a rendu hier un dernier hommage à Davide Astori, décédé dans la nuit de samedi à dimanche. Des funérailles auxquelles ont assisté près de 10 000 personnes devant la basilique Santa Croceux. Auprès de la famille et des proches d'Astori, il y avait Baresi, Totti, Van Basten, Buffon, Pjanic, N'Golan. Le capitaine de la Fiorentina sera inhumé près de Bergame, d'où il est originaire et où vit ses parents. NBA pour terminer, avec vous Idrissa, quelques résultats de la nuit dernière.
Brooklyn Nets et Charlotte Hornets, 125-111. Miami Heat et Philadelphia Sixers 108-99, Boston Celtics et Minnesota Timberwolves 117-109, Oklahoma City Thunder et Phoenix Suns, 115-87.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Revenons sur la tournée africaine du secrétaire d'État américain, Rex Tillerson. Il a rencontré hier à Addis Abeba le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Les deux hommes ont discuté de la lutte contre le terrorisme, de la sécurité, du commerce, du développement, de la corruption et des conflits en Afrique au cours de ce tête-à-tête d'une heure au siège de l'UA dans la capitale éthiopienne. Pour en savoir davantage, Jacques Aristide a joint notre correspondant sur place, Getachew Tedla.
Il est vrai que dans la sous-région de l'Afrique de l'Est, notamment dans la Corne où sévit des querelles intestines, des conflits souvent à caractère ethnique ou tribal, et surtout le terrorisme conduit par Al-Shabaab, une aile de celle qui se réclame État islamique, font que cette région est de nature de la marmite qui boue. En particulier le cas de la Somalie, où la mission africaine de maintien de la paix, la MISOM, a du mal à accomplir sa mission comme il se doit, souvent par manque de fonds et pour la bonne conduite appuyée par la contribution des partenaires généralement occidentaux. C'est cet aspect-là qui a été revu par le secrétaire d'État américain Rex Tillerson au cours de ses entretiens avec Mahamat Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. Les deux interlocuteurs ont convenu de l'adoption d'une stratégie de lutte anti-terrorisme précédemment étudiée par les experts. Mais quant à sa nature, cela n'a pas été divulgué. Assuré donc, la sécurité dans la sous-région a été le clou saillant de cette rencontre.
Le patron de la diplomatie américaine est également revenu sur la Chine. Qu'a-t-il dit exactement?
À des questions posées par des journalistes au secrétaire d'État relatives à l'investissement chinois en Afrique, sous forme de conseil, il a préconisé que le continent soit attentif et bien étudié les conditions de prêt, lesquelles, à long terme, ne feront que subjuguer les États dans l'impossibilité de rembourser les dettes. Une sorte de mise en garde. Les Africains devront bien étudier la nature des projets de développement.
Rex Tillerson en a également profité pour parler de la Corée du Nord, n'est-ce pas?
Oui, cette question a été aussi évoquée, oui. Eu égard les relations de négociation des deux Corées, il a souligné que la Corée du Sud tient toujours au courant les États-Unis du processus de développement et travaille de tandem avec celle-ci. Bon, il n'a pas beaucoup insisté à développer beaucoup plus que cela.
Quel est son programme ce vendredi?
Le secrétaire d'État, dans sa tournée marathon, on peut dire, se rendra après l'Éthiopie, entre autres, à Djibouti et au Kenya, à un emploi du temps révélé ici à Addis Abeba.
C'était Getachew Tedla, correspondant de VOA Afrique à Addis Abeba, en Éthiopie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Nous vous le disions hier, plus de 2500 demandeurs d'asile burundais ont quitté mercredi la cité de Kamanyola en République démocratique du Congo pour le Rwanda. Ils viennent d'être transférés dans les camps de transit de Nyagatare et Nyarushishi en district de Rusizi au Rwanda. Ces précisions sont de notre envoyé spécial Ernest Muheru qui s'est également rendu dans le camp abandonné de Kamanyola en RDC par ses réfugiés.
Après que le réfugié burundais ait passé une nuit à Bugarama au Rwanda, non loin de la frontière avec la cité congolaise de Kamanyola d'où ils sont venus, ce 8 mars, leurs identités sont systématiquement vérifiées avant qu'ils suivent leur transfert vers le camp des transits de Nyagatare et Nyarushishi en district de Rusizi au moyen de bus blancs alignés. Pendant que ces bus remplis font les navettes, certains se précipitent, d'autres égrènent leur chapelet évasif. À notre arrivée à Bugarama, il règne une ambiance de foi barbares ou réfugiés, les réfés et bétail traînent un peu partout. Un vrai Capharnaüm. J'approche le porte-parole de ces réfugiés, Dionyse Nyandui.
Le Rwanda nous a bien accueillis. C'était tard, ils nous ont montré où dormir et aujourd'hui, ils ont commencé à nous transférer vers un site de transit.
Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à pouvoir quitter la République démocratique du Congo? Vous y étiez ça fait déjà plus de 10 ans.
Principalement, c'est l'insécurité qu'il y avait. Il y avait beaucoup de problèmes. On a des référents en enregistrement biométrique. Et on était dans un petit camp enfermé, sans aide depuis 2 mois. C'est ça qui nous a poussé à quitter.
Côté congolais, le chef d'antenne intérimaire de la Commission nationale pour le réfugié, Sener Ouvira, rejette la thèse d'insécurité. François Mangala.
Dire que aussi de Kamanyola, où ils étaient installés, qu'il y avait l'insécurité, non. Il y a la MONUSCO qui est là, et la police nationale congolaise qui est là, implantée, installée pour leur sécurité. S'ils étaient vraiment insécurisés, est-ce qu'ils pouvaient encore faire des mouvements vers la cité, vers les champs pour récolter leur maïs? Non. S'ils voulaient très bien avoir le statut des réfugiés, ils devraient normalement se faire enregistrer biométriquement comme tout le monde.
Au camp de réfugiés désertés à Kamanyola, il n'y a pas âme qui vive, à part le casque bleu des Nations Unies qui sécurise les sites. Plusieurs effets sont abandonnés et entassés par-ci par-là, des tentes à moitié détruites et l'eau qui coule à longueur des jours. J'aperçois des poules qui vadrouillent à gauche à droite. Ça sent un départ précipité. Joe Wendo, directeur de la radio Flash FM de Kamanyola, témoigne.
Nous avons été surpris, c'était au moins aux environs de 14h, nous avons vu les réfugiés burundais. Ils commençaient déjà à plier les bagages, ils commençaient à vendre à moins cher même les billets qu'ils avaient. Il y avait des vélos, il y a même des vaches, des chèvres qu'ils vendaient à moins cher. Et en un clin d'œil, on les a vus, ils ont pris la direction vers la frontière rwando-congolaise.
Dans les rues de Kamanyola, j'apprends que même certains Congolais fidèles à la secte des Ebiya dont le culte se faisait dans le camp des réfugiés abandonnés, ont quitté clandestinement leur famille en se constituant à leur tour réfugiés au Rwanda. Depuis le camp abandonner les réfugiés à Kamanyola, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
À Djibouti, le Conseil constitutionnel a proclamé hier les résultats définitifs des élections législatives du 23 février. Après constatation de certaines irrégularités, la Haute Cour a invalidé les résultats dans 28 bureaux de vote sur 469. Quelle sera la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale? Eh bien, Idriss Fall a joint Abdoulkader Kamil, Premier ministre et président de l'UMP, le parti au pouvoir à Djibouti.
D'après ce qu'on pensait, au vu des résultats sortis des urnes, on avait à peu près 54 sièges. Et puis là, on me dit que nous avons que 53 sièges parce que le Conseil constitutionnel a invalidé un certain nombre de bureaux, au total 28 sur le 469. Parce qu'il y avait beaucoup d'ordres de mission. Il a estimé que ces ordres de mission n'étaient pas légaux dans la mesure où ces gens-là étaient inscrits dans d'autres bureaux. Mais nous avons quand même la majorité absolue au sein de cette assemblée. L'opposition aura 8 députés sur le 65. C'est la dernière instance qui est souveraine. C'est le Conseil constitutionnel qui valide les élections.
Mais il y avait aussi une partie de l'opposition qui avait appelé au boycott, estimant que cette élection n'était ni libre ni transparente.
À vrai dire, quand on regarde tous les partis légalisés depuis déjà une décennie, ils étaient présents durant cette élection. Ceux qui disent que nous allons boycotter les élections, ce sont des partis qui n'existent que sur les réseaux sociaux.
Et quelles seront les principales priorités pour votre parti dans la prochaine assemblée?
Nous avons proposé donc au peuple djiboutien un programme dans lequel il y a la lutte contre les précarités, la construction de logements sociaux, l'industrialisation du pays par la création de nouveaux ports. Tout cela permettra de réduire le taux de chômage dans le pays.
On constate l'arrivée en force de la Chine à Djibouti.
Il y a effectivement une base chinoise qui est à Djibouti, comme il y a une base américaine et française depuis déjà un certain temps. Maintenant, il y a les Japonais, les Italiens, tout le monde est là. Quand on dit qu'elle est arrivée en force, la Chine a investi dans le port. d'abord. La question que je me pose tout le temps quand on me dit ça, c'est de dire pourquoi il y a des pays comme l'Europe, les États-Unis qui ont des moyens. Pourquoi ils n'ont pas investi dans le port? À l'époque, quand on leur disait « venez investir », on a mis en place un système pour attirer les investisseurs. Maintenant que la Chine investit dans le port, aussi dans le domaine de l'adduction d'eau et dans le chemin de fer, et tout le monde dit maintenant l'arrivée en force des Chinois. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il fallait qu'on attende à ce qu'un jour, si on fait abstraction de la Chine, quels sont, d'après vous, les pays qui allaient nous aider dans ce sens-là? Sans faux problème. Il n'y a pas d'arrivée en force. Tout le monde se retrouve à Djibouti et le gouvernement essaie de tenir l'équilibre.
Abdelkader Kamil, Premier ministre et président de l'UMP, le parti au pouvoir à Djibouti.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Nous vous le disions en première partie, le président Donald Trump a signé hier la décision imposant des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis, ignorant ainsi les mises en garde de ses alliés sur les risques d'une guerre commerciale aux conséquences imprévisibles. Eddie Isango a joint pour une analyse un politologue spécialisé dans les affaires et la finance, Jean-François Seznec.
Les conséquences immédiates vont être que les pays concernés vont crier très fort, la Chine en particulier, les Européens, surtout l'Allemagne et peut-être bien aussi le Canada et le Mexique. Tout le monde a crié très fort, mais à la limite, ça va en fait tout simplement commencer une négociation musclée entre tous ces pays parce que les États-Unis ont un déficit de commerce avec la Chine de plus de 500 milliards de dollars. Donc le président, dans un sens, a raison de dire qu'il faut que ce montant diminue et que la Chine perdrait plus que les États-Unis s'il y avait vraiment une guerre commerciale. Mais enfin, à mon avis, il n'y aura pas de guerre commerciale, mais il va y avoir des négociations très, très musclées.
Pourquoi 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium?
Parce que, en fait, effectivement, l'acier, beaucoup de grandes compagnies américaines ont été obligées de fermer leurs usines parce qu'ils n'arrivaient pas. Le prix de l'acier sur le marché mondial a été très cassé par les nouveaux producteurs, en particulier l'Inde, la Chine et jusqu'à un certain point certains pays d'Europe. Et donc les compagnies américaines ont assez souffert du prix de l'acier mondial. Pour l'aluminium, les Américains ont moins souffert et donc ils n'ont mis que 10% à ce moment-là.
Il y a pour l'instant deux pays, les Canada et les Mexique, qui sont exemptés selon cette décision. Mais pourquoi cette différence?
C'était un peu une question une question de négociation. Si le président dit au Canada et au Mexique, écoutez, voyez ce qui se passe si vous ne travaillez pas avec nous, mais si vous ne donnez pas plus d'avantages sur la négociation dans le NAFTA, dans le Free Trade Agreement entre le Canada et le Mexique, ben nous pourrions vous imposer des tarifs de 25%. Et 50% des importations d'acier américain viennent du Canada. Donc ce serait très très grave pour le Canada. Il essaye un petit peu de forcer la main des Canadiens à réviser le NAFTA à l'avantage des États-Unis.
La Banque mondiale a prévenu que les emplois pourraient être réduits même aux États-Unis et ailleurs. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être le cas?
Ah oui, certainement. S'il y a vraiment une guerre commerciale, ça va créer des problèmes. Ça va d'abord créer de l'inflation aux États-Unis parce que ça veut dire que tous les produits, il va y avoir des taxes d'importation énormes, les prix vont monter. Les produits de Chine vont monter énormément. Donc, effectivement, ça pourrait créer des problèmes très graves à l'intérieur des États-Unis, mais peut-être pas aussi graves que des problèmes que ça créerait en Chine. Le président prend le risque de se mettre le monde à dos de façon à pouvoir obtenir plus du reste du monde et changer un petit peu le déficit de la balance commerciale américaine.
C'était Jean-François Seznec de la McDonald School of Business de Georgetown University.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons des effets nocifs de l'alcool sur la santé.
Selon l'OMS, 3,3 millions de personnes meurent chaque année dans le monde des causes liées à la consommation de l'alcool. D'autres victimes développent des troubles mentaux et comportementaux.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Richard Mukendi, médecin en service aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Il nous expliquera comment l'alcool agit dans l'organisme.
Nous écouterons le témoignage du docteur Mbuyuri Gobert, directeur du programme de lutte contre la toxicomanie en RDC. Nous écouterons aussi le docteur Idrissa Bah, coordonnateur du centre de prise en charge des addictions de Dakar.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.